Bonjour à tout le monde. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Et nous saluons aussi les gens qui nous suivent sur Zoom. Même si nous n'avons pas cette chance de se voir en personne, mais quand nous vous voyons, nous vous voyons sur les Zoom aussi, ça nous fait plaisir. Et nous sommes contents que Dieu a mis en place cette technologie, au moins que les gens puissent aussi prier ensemble. Alors, nous allons continuer notre célébration avec le partage de la parole que nous allons trouver dans Ésaïe 5. Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe 5. Nous allons lire du premier verset au verset 7. Et je vais demander parfaitement devant moi de nous lire ce texte d'Isaïe 5, 1 à 7.
Ésaïe 5, 1 à 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plat délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. À 7, c'est ça? Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient.
Amen.
Amen.
Soyez bénis, que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous parle à travers ce passage qu'il a voulu qu'il soit partagé entre nous pour cette journée. Oui, c'est une sorte de parabole comme on a l'habitude de lire. C'est souvent dans le Nouveau Testament où il y a des passages pareils, mais dans l'Ancien Testament aussi, il y a eu des cas où soit le prophète utilisait le parabole pour expliquer les choses, pour exposer ou bien présenter une situation d'un peuple de Dieu ou bien des autres nations. Alors, ce que nous avons, ce que Parfait vient de nous lire, c'est comme une personne, on va dire une personne, un propriétaire ou bien un investisseur qui il a voulu investir dans la plantation de la vigne. Et la Bible nous détaille tout ce qu'il a fait. Vraiment, quand on lit ça, on voit qu'il avait préparé son projet. Et comme tout le monde, il a préparé le terrain. C'est ça qui est écrit. Il a fait des irrigations parce que la Bible nous dit qu'il a mis même, il a creusé même à l'intérieur du champ, là où au moment de la sécheresse, il va puiser de l'eau pour arroser ses plantations. La Bible nous dit aussi que il a clôturé son champ pour éviter que peut-être les étrangers ou bien pour éviter que les gens, les voleurs puissent venir voler ses plantations une fois alors la production est arrivée. Donc, il a fait tout ce qui était dans ses moyens pour protéger, pour vraiment bien démarrer son projet. Comme tous les cultivateurs, je vais dire expérimenter tous les cultivateurs, entrepreneurs. C'est sûr qu'il a aussi embauché des employés qui allaient prendre soin de ces plantations de jour en jour. Qui était là du lundi au vendredi, qui était là donc même pour protéger, pour éviter que vraiment quelque chose de mal puisse venir embêter son projet. Et sans doute, il avait aussi vérifié le sol, parce que la Bible nous dit que même il a creusé pour voir la profondeur si sa plantation vraiment allait trouver assez de terre pour ses racines. J'imagine que même à son époque, il a consulté les agronomes pour lui dire, oui, ta vigne va produire dans cette terre. Parce que vous savez, ce n'est pas toutes les plantes qui peuvent produire à n'importe quel terrain. Il faut souvent faire appel aux experts, aux agronomes pour le test du sol, pour voir c'est quoi la bonne équité à mettre, et c'est quoi la culture à ne pas cultiver, dépendamment du type du sol. Alors, le propriétaire, il n'est pas quelqu'un, et quand je lisais, je voyais que c'est quelqu'un qui avait des moyens pour tout faire, mais en espérant que ça va aussi produire comparé à ce qu'il avait investi. C'est ce qu'il espérait. Et même c'est ce que nous avons dit dans la Bible. Il a mis la plantation. C'est sûr qu'il a attendu, je ne sais pas combien de mois, mais il a fait tous les travaux nécessaires dans ces plantations. Quand on cultive, on commence à arroser. Après un moment donné, on commence peut-être à venir encore enlever peut-être une mauvaise plante qui peut pousser à côté de tes plantations. Il y a des étapes quand même à n'importe quel type de culture. Donc, il y a des étapes à suivre jusqu'à ce que la production, la plante produise les fruits. Et il a fait ça et par surprise, le temps qu'il espérait avoir des fruits, le temps qu'il espérait aller récolter, ça a été un scandale. La Bible nous dit qu'il a rien trouvé. Il a rien trouvé de ce qu'il espérait. Mais ce n'est pas qu'il a rien trouvé. Et la Bible a dit qu'il espérait avoir de bons fruits, mais il a trouvé le contraire. Il a trouvé le contraire. Je vais lire le verset 4, le verset 2, la partie B, il est écrit, il attendait donc de sa vigne de bons raisins, mais il n'en a produit que de mauvais raisins. Oui, ça a produit quand même, ça a produit, mais ce n'est pas des bons raisins comme il espérait, et aussi considéra l'effort, les moyens qu'il avait mis pour lui, il n'y avait aucune excuse de ne pas produire de bons résultats, de bons fruits. Maintenant, de son côté, il voit tout ce qu'il a fait depuis le début, il voit tous les moyens qu'il a mis en place. Il voit comment il a essayé de protéger pour que même les oiseaux ne puissent venir s'aimer ou bien venir amener d'autres plantes qui pouvaient peut-être causer des problèmes dans son champ. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait à ma plante, à ma culture? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas donné? Il s'est évalué. Il a vu qu'il avait mis de l'engrais chimique, il a mis donc toutes sortes de choses que la plante avait besoin pour grandir, pour produire. Il avait tout mis. Et puis, il a vu, maintenant, de mon côté, tout était mis en place. Alors, j'aimerais que Une personne tierce vient me dire, peut-être moi je vois mal, qu'il vient me dire, qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ma plante, dans ma culture, dans ma vigne. Et c'est bien précis, c'était la vigne. Et c'est pour cela qu'il engage, il s'engage, je dirais, dans une sorte de jugement. Il appela les personnes tierces de venir juger, le juger avec sa vigne. Donc, pourquoi la vigne n'a pas produit autant de bons fruits que le propriétaire espérait, en considérant ce qu'il avait mis, en considérant l'effort qu'il avait mis. Les résolutions du jugement n'ont pas été révélées, mais sans doute, il a gagné. Parce que il n'y a personne qui a revenu dire le contraire. Parce que ce que on peut faire pour notre plantation, ça a été fait. Mais ça doit être quelque chose d'étrange qui a fait qu'au lieu d'avoir de bons raisins, il en trouve des mauvais raisins. Alors, il explique ce que voulait dire ce parabole. Il a dit à la fin, Or, c'est la nation d'Israël, au verset 7. Or, c'est la nation d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes. Le plan qui faisait ces délices, ce sont les habitants du pays de Jida. Il attendait de la droiture, et ce n'est pas qu'injustice. Il attendait de la justice, et ce sont des cris de détresse. Donc, il a fait un parallèle de la parabole que nous venons voir avec, je dirais maintenant, les faits réels, ce que Dieu voulait dire à travers la parabole. C'est dans le contexte biblique, mais par la suite, on va voir son implication, l'implication de ce passage pour nous aujourd'hui. Donc, la Bible nous dit clairement que quand il disait le propriétaire c'est l'Éternel, c'est Dieu. Et puis que la vigne, c'était le peuple d'Israël. Et si vous vous souvenez très bien, et même si nous lisons à partir du premier chapitre d'Ésaïe, nous allons voir beaucoup, plusieurs fois, Dieu parle de Juda et d'Israël. C'était un peuple que Dieu avait choisi, avait mis à part pour que les nations autour puissent voir qui est Dieu à travers son peuple. Dieu avait mis à leur disposition tout ce dont ils avaient besoin pour être de bonnes personnes, pour être un peuple fidèle. Il protégeait son peuple. Vous savez qu'il combattait de leur part, de leur côté. Donc, si on raconte tout ce qu'il a fait, vous allez voir que c'est pareil de ce que le propriétaire avait fait. Le propriétaire avait clôturé la ferme. Dieu aussi protégeait son peuple, que ce soit dans les guerres contre leurs ennemis, contre d'autres nations. Dieu était là pour les protéger. Dieu pourvoyait à leurs besoins, à tous leurs besoins. Comme le propriétaire, il avait mis en place de l'eau, il avait mis en place des gens, des travailleurs qui étaient là à chaque jour de la vie d'une plante pour qu'il en prenne soin. C'est ce que Dieu avait fait à son peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'avait rien manqué de la part du Seigneur. Et Dieu espérait que, oui, le peuple va vraiment l'honoré va obéir, va respecter ses commandements. Et que le monde tout autour arrête voir qui est Dieu à travers son peuple. C'est ce que Dieu espère. Comme le propriétaire, j'imagine, si la vigne avait produit de bons fruits, j'imagine que les gens autour, d'autres cultivateurs, allaient faire des visites, études dans son champ pour voir ce que le Messie avait fait pour avoir un tel rendement, un bon fruit. Donc, c'est ça qui allait arriver. Et Dieu aussi espérait qu'à travers ce qu'il avait fait, à travers la protection qu'il donnait à son peuple, oui, d'autres nations vont voir comment le peuple d'Israël prie, adore, et obéisse au commandement. Ils allaient dire, oh, dans son peuple-là, il y a un Dieu, il y a l'éternel, un vrai Dieu. Donc, Dieu espérait qu'à travers son peuple, les gens autour allaient reconnaître son nom, l'éternel. Mais il n'a trouvé que le contraire. Il dit qu'au lieu de la justice, il n'y avait que l'injustice au milieu de son peuple. Donc, il a trouvé quasiment le contraire de ce qu'il espérait. Voilà maintenant, il dit, ça ne va pas arrêter là. Il y prend les mesures. Maintenant, j'avais fait tout ce que je pouvais faire, mais je n'ai pas eu le résultat que je m'attendais. Il dit, maintenant, voilà ce que je vais faire à ma ferme. Au verset 5, il dit, maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Maintenant, il allait enlever même la clôture qui empêchait les étrangers, les animaux de rentrer. Mais il disait qu'il allait enlever tout. Comme ça, même les animaux, les oiseaux pouvaient maintenant, ils étaient libres d'entrer dans la ferme pour faire tout ce qu'ils voulaient, pour manger, pour désorganiser. Donc, parce qu'ils n'avaient rien, ils n'avaient aucun espoir à sa vie. Deuxième chose, oui, je ferai une brèche dans sa clôture pour que les passants la piétinent. Donc, c'est ça que je viens de dire. J'en ferai une friche, ni ne la taillera, ni ne la sacrera. Donc, la personne, le travail qui était là pour entretenir la vigne, Dieu, le propriétaire, décide de les enlever, de ne plus payer les employés pour aller prendre soin de la culture. Vous vous imaginez, après un certain moment, comment, avec la pluie qui tombe, les plantes sauvages qui poussent à côté, vous comprendrez comment ça allait être après quelques jours ou bien après quelques mois. Alors, les ronces, les épines, ils croient trop librement. Alors qu'auparavant, les employés étaient là pour enlever toutes les mauvaises plantes qui poussaient pour, vous savez, quand les mauvaises plantes poussent autour de nos plantations. Donc, je dirais ça, ce que notre plantation a retiré de la ressource, en même temps, les autres aussi, ils tirent. Comme ça, notre plante souffre parce qu'ils n'ont pas assez de, je dirais, de ce qu'ils ont, ils ont besoin. Parce qu'ils partagent, je veux dire, ils partagent avec d'autres mauvaises plantes. Mais cette fois-ci, le propriétaire décide de laisser tout ça donc grandir avec ce soi-disant vigne. Et puis, une autre chose, j'interdirai aux nuages de répandre leur pluie sur elle. Oui, oui. J'interdirai aux nuages de répandre leur pluie sur elle. Vous savez que si la plante n'a pas d'eau, ne trouve pas d'eau, elle va sécher sans doute. Donc voilà ce que décide le propriétaire après avoir vraiment manqué le résultat dans sa vigne qu'il avait dans lequel il avait investi autant d'argent. Alors, comme je disais, le parabole, bien sûr, relatait la vie du peuple d'Israël vis-à-vis leur Dieu. Alors Dieu aussi décide, quand il disait cela, c'est comme s'il disait, maintenant, il n'y a plus de protection à mon peuple. Je ne vais plus vous protéger. Je vais vous laisser les ennemis, vos ennemis vont venir vous attaquer, vous détruire comme ils veulent. Vu que vous n'avez pas obéi à mes commandements, vu que vous m'avez pas obéi, je vais vous laisser plus de protection de ma part. Et donc, tout ce que vous craignez, tout ce que vous ne pouvez même pas imaginer, vont vous arriver. C'est ce que, en fait, Dieu voulait signifier à travers cette parabole. Ça, c'est le contexte biblique. C'est ce que voulait dire, c'est ce que le prophète voulait signifier à travers le passage que nous avons lu. Alors, si nous voyons l'implication de ce passage, de ce message pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut nous dire? Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Et aussi, si nous regardons, Dieu a fait beaucoup de choses pour nous, pour que nous soyons ses enfants, pour que nous puissions l'honorer. Comme nous le lisons dans Jean 3, 16, il a tant aimé le monde qu'il a donné même son fils. Je veux dire, la dernière chose que toute personne peut faire, il a donné son fils unique pour venir mourir, pour que le monde soit sauvé. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait encore? Mais comme il dit dans Jean aussi, qu'il est venu, mais il n'a pas été reconnu par les siens. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous-mêmes qui sont assis ici, dans nos vies, dans nos vécus. Il a fait des choses. Pourtant, il espérait que vous pouvez compléter. Il espérait qu'une fois au Canada, il allait nous trouver. Il espérait qu'une fois nous placés, je ne sais pas dans quel poste, il espérait avoir Il espérait qu'une fois il nous donne les enfants, il allait voir peut-être la gloire dans sa maison. Vous pouvez compléter. Il a fait de bonnes choses, beaucoup plus de choses. Et il espérait avoir un retour de notre part. Il voulait recevoir une réponse favorable du monde. Mais vous savez ce que le monde a répondu? Ils ont tué son fils et ils n'ont pas cru à lui. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne croient, beaucoup de monde ne croit pas à lui. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le monde? Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous qui sommes ici présents? Oui, des fois, nous, les humains, nous pouvons peut-être voir, comme les économistes disent, les besoins de l'homme sont illimités. Et si on a ça, on a besoin de ça. Si on a une maison, on a besoin d'une autre maison à location. Si on marche à pied et qu'on a un vélo, demain on a besoin d'une voiture. Peut-être après, au début, peut-être on ne peut pas choisir la voiture. Mais après, on va commencer à avoir les modèles, d'autres modèles de voitures. Oui, c'est comme ça les autres disent que les besoins de l'homme sont illimités. Ce qui fait qu'à chaque fois nous nous plaignons, on va voir que nous ne sommes pas satisfaits. Mais si nous regardons vraiment avec l'œil spirituel, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Dieu qui nous donne encore le souffle de vie. Mais parce que quand nous comptons les choses de plus, les choses de plus de valeur que nous avons, ça, on ne compte pas. La vie, on ne compte pas. On pense que c'est comme ça, c'est gratuit. C'est des choses, comment dirais-je, normales. Mais je ne souhaite pas à personne, mais je veux dire, pour des personnes qui sont en oxygène, si on leur demande la valeur de l'oxygène ou de respirer, ils vont te le dire, ils vont nous le dire. Nous, on ne peut pas. Moi-même, comme je respire, c'est automatique, je ne peux pas te dire que vraiment, oui. Mais pour les gens qui vivent sous l'oxygène, ils savent combien de fois Dieu nous fait de grâce en nous donnant le souffle de vie. Donc, je voudrais donner cet exemple pour vous montrer que une fois que nous vivons, une fois que nous avons le souffle de vie, même si nous n'avons pas tout ce qu'on a besoin, parce que jusqu'à la fin de nos vies, on n'aura jamais je dirais, on ne comblera jamais nos besoins, sauf si le Seigneur entre dans nos vies. C'est seulement Jésus qui peut nous combler. Sinon, le monde ne peut pas nous combler, jamais. Parce que même pour comprendre cela, si on vous dit, on nous présente souvent les gens, les personnes les plus riches du monde, mais ils n'arrêtent jamais de travailler. Ils n'arrêtent jamais. Ils travaillent. À un moment donné, tu peux te demander, mais pourquoi ils travaillent? Est-ce qu'il a. Il a tout ce qu'il peut manger, même je sais pas, la 10e génération. Mais il travaille encore, il travaille encore. Et si tu lui demandes, il ne va pas te dire qu'il est arrivé à. Il a atteint vraiment ses objectifs. Il va te dire que oui, j'ai sa main. Il y aura toujours un mais. Pour dire que au dernier souffle, on a le besoin, il est toujours là. Ce qui veut dire que pour comprendre ce message, il faut comprendre que Dieu a tout donné, il a tout fait. Et si nous, il nous reste encore la vie, il nous reste encore vivre, c'est encore la grâce. Il n'y a pas vraiment d'excuse à ce que il vienne chercher des fruits et qui manque des bons fruits. Oui, le monde n'a pas cru en Jésus, n'a pas cru en Christ. C'est sûr qu'il y aura le jugement. Il y aura le jugement. Mais avant d'arriver à ça, peut-être je peux aussi, j'ai dit ça, mais je peux aussi vous aider à comprendre ce que maintenant Dieu veut, à ce que Dieu veut de nous. Comme Dieu espérait des bons fruits dans sa vie, il a besoin aussi des fruits aujourd'hui dans son peuple que nous sommes, dans son peuple que nous sommes. Si nous lisons dans Jean 15, verset 8, oui, on peut faire une liste, une grande liste de ce que le Seigneur veut de nous. Mais parmi la liste, j'ai voulu vous partager Jean 15, verset, parfait, si tu es là, verset 8. Verset 8, si tu es là, tu peux nous lire. Qu'est-ce qu'il s'attend de son peuple que nous sommes aujourd'hui?
Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen.
Amen. Ça, c'est une chose parmi pas mal d'autres que le Seigneur a besoin. Il veut que nous portions des fruits et qu'à travers cela, le monde puisse glorifier même. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Pas seulement par nous, mais par aussi les gens autour de nous. Les gens qui vont manger à nos fruits, aux fruits qui sortent de nous, vont glorifier le Seigneur. Alors, le Seigneur veut que nous soyons justes, nous soyons fidèles, un peuple fidèle à lui seul. Et il veut que nous demeurions à lui. Parce que peut-être on n'a pas, on n'a pas, n'a pas approfondi pour voir le pourquoi peut-être la vigne n'a pas donné le bon fruit, mais peut-être il y avait une raison. Mais pour nous, comme la Bible nous le dit, la raison pour laquelle une plante ne peut jamais, je vais dire, une branche ne peut jamais porter de fruits, comme j'ai le dit aussi, c'est qu'une fois, c'est quand la plante est détachée, la branche est détachée de la plante. Vous comprenez? Une fois, donc, il dit, il y a aucune branche ne peut produire des fruits s'il n'est pas attaché à la plante. Donc, Dieu a dit ça quand il donnait le parabole là de la vigne aussi, où il disait que il est celui qui, à qui on doit se connecter pour produire des fruits. Une fois que nous ne demeurions pas à lui, jamais nous porterons des fruits. Alors, Jésus veut que nous portions des fruits, mais pour avoir ces fruits, il faut qu'on soit à lui. C'est à lui qu'on doit puiser pour produire. Une fois en dehors de Jésus, jamais on produira jamais des fruits. C'est pour cela qu'on a commencé là, bien sûr, le thème que nous traitons, je dirais, à chaque dimanche, vivre en Jésus. C'est la même chose. Quand nous vivons en Jésus, quand nous vivons vraiment en Jésus, nous demeurons à lui, nous allons produire des fruits. Mais il faut aussi comprendre il y a une différence entre vivre en Jésus et vivre dans l'Église, où il y a une différence. Mais ce que je dis, c'est que nous demeurions en Jésus. Nous vivions en Jésus, pas à côté, pas en dehors, parce que c'est en lui que nous allons pouvoir puiser la force pour produire des fruits qu'il veut voir en nous. Alors, pour terminer, je dirais que c'est un message qui nous interpelle tous. C'est un message de rappel que oui, Dieu a tant aimé le monde, il a tout fait comme le propriétaire avait fait pour sa vigne, pour sa ferme, mais qu'il a été déçu à la fin. Alors nous, je ne souhaite pas que notre Seigneur soit déçu à cause que nous ne produisons pas de bons fruits comme il l'espérait. Et pour terminer, je vais vous dire que oui, il y aura le jugement. Le propriétaire a jugé bon de laisser tout ce qu'il faisait pour sa ferme. Il a arrêté tout comme on a vu. Mais pour nous, vous savez, c'est quoi le jugement qu'il y aura? Oui, peut-être on va continuer à vivre, mais à la fin, il y aura un jugement pour ceux qui n'ont pas eu de bons fruits et pour ceux qui ont eu de bons fruits. Il y aura un jugement. Peut-être on ne va pas entrer dedans, mais il y aura un jugement, ça c'est sûr. Mais je préfère qu'on puisse gagner le procès. Et même qu'il n'y ait plus le procès entre nous et le Seigneur. C'est ça mon souhait, c'est ça ma prière, que ce soit pour moi ou pour tous les chrétiens, tout le peuple de Dieu, qu'il n'y ait plus, même le procès, qu'il n'y ait plus des accusations de la part de notre Dieu, parce qu'il a tout fait pour que nous puissions être fidèles, pour que nous puissions le plaire à tous les jours. Oui, c'est un combat, c'est pas quelque chose de facile, mais une fois que nous sommes plantés en Jésus, tout va être facile. Amen. Nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons pour ce message que tu as prévu pour aujourd'hui. C'est toi qui l'as prévu. Il est venu à ce moment pour un but précis. Ça peut être pour une personne, pour peut-être tout le monde. Mais ce que nous voulons te demander, Seigneur, c'est que nous puissions rester en toi, nous puissions demeurer en toi. Parce qu'en dehors de toi, nous ne pouvons rien faire. En dehors de toi, nous ne pouvons jamais produire de bons fruits comme tu le veux. Seigneur Jésus, je prie qu'à travers ce message, tu puisses visiter beaucoup plus de personnes et tu puisses les enseigner un peu plus, que tu puisses approfondir ce message dans leur cœur et qu'ils puissent être interpellés, Seigneur, à ce que tu veux dire, à ce que tu voulais nous parler ce matin. Merci Seigneur que tu vas nous accompagner. Merci Seigneur que tu vas continuer à nous bénir et que tu vas jamais nous abandonner. Oui, le propriétaire a abandonné sa ferme parce qu'il ne trouvait pas tout ce qu'il espérait. Mais je sais que dans ta grande bonté, tu es encore là pour nous jusqu'à au dernier jugement. Mais j'aimerais, Seigneur, qu'avant le jugement, que tu puisses toucher beaucoup plus de monde, que les gens puissent, Seigneur, se tourner vers toi, que les gens, Seigneur, puissent croire en toi. Oui, le monde n'a pas connu la lumière, Seigneur, que tu nous as envoyée, qui est toi-même. Mais je prie que, Seigneur, en ce moment, tu touches encore de monde. Que les gens réalisent que tu es venu, que tu as tout fait, Seigneur, dans leur vie. Oui, il y a beaucoup qui se plaignent, mais je préfère que, je prie que tu leur donnes, Seigneur, des yeux spirituels, que tu ouvres leurs yeux, Seigneur. Parce qu'avec nos yeux physiques, oui, tout ce qu'on va voir, ce n'est que de mauvaises choses. On ne va jamais voir tes grâces avec nos propres yeux. Mais Seigneur, aide le monde, aide-nous à voir vraiment à travers nos vies qu'est-ce que tu as fait et même ce que tu continues de faire aujourd'hui. Merci papa, merci pour le message, merci de l'accompagner jusqu'à ce qu'elle puisse, Seigneur, faire ce que tu as voulu qu'elle fasse à nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.